des vies et des hommes.
Aujourd'hui, la joie de recevoir Jean-Marie Petitclerc. Jean-Marie Petitclerc, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes prêtre, prêtre salésien, éducateur spécialisé, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'éducation. Et vous vous inspirez de la pédagogie de Don Bosco pour aller à la rencontre des jeunes, plutôt des jeunes en difficulté. Et vous êtes venu ce week-end, invité par les éducateurs chrétiens, pour animer deux cycles, une conférence qui a eu lieu vendredi dernier sur éduquer à l'heure d'Internet. Et puis aujourd'hui, vous êtes allé plus particulièrement à la rencontre des éducateurs. Alors éducateurs au sens large, hein, pas seulement les enseignants, mais les éducateurs, toute personne en lien avec des jeunes, pour animer une matinée autour du thème « Les secrets de l'éducateur chrétien ». Donc, nos auditeurs, en sortant de là, ne seront peut-être pas éducateurs, mais seront tout, en théorie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pédagogie de Don Bosco ?
Pédagogie, effectivement, qui a été initiée par Don Bosco au XIXe siècle, alors que l'Italie traversait toute une période de transition entre la société rurale et la société industrielle, entre la société monarchique et la société républicaine, et bon nombre de gamins issus de la campagne arrivaient aux portes des faubourgs de la capitale du Piémont, Turin, et se retrouvaient à la rue sans emploi. Et Jean Bosco a été très interpellé par le sort de ces jeunes. Il a été visiter la Générale, qui était la prison pour mineurs de Turin, et voir tous ces jeunes en pleine force de l'âge incarcérés dans des conditions sordides a été pour lui un véritable choc. Au sortir de la prison, il se dit, si ces jeunes avaient pu rencontrer avant d'en arriver là quelqu'un qui se rende attentif à leurs problèmes, à leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération si néfaste à leur devenir. Et donc Don Bosco fait partie au 19e de éducateurs qu'on peut qualifier de pionniers de la prévention, alors que le mode de traitement de cette jeunesse dite délinquante était centré autour de la répression, lui a initié ces moyens de la prévention, c'est-à-dire donc accompagner le jeune, l'accueillir et cheminer avec lui. Et il résumait sa pédagogie par ce slogan « Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation ». C'est-à-dire que pour Don Bosco, éduquer un enfant nécessite qu'une relation de confiance s'instaure entre le jeune et l'éducateur. Il disait « On peut fonder le pouvoir sur la menace, mais l'autorité, on ne peut la fonder que sur la confiance ».
Ce qui veut dire qu'il faut une rencontre.
Il faut une rencontre, c'est sûr. Donc c'était vraiment l'homme de la rencontre. Il allait, et c'était aussi sa grande intuition pastorale, qu'a repris d'ailleurs le pape François, c'est que à une époque où les prêtres de la ville s'étonnaient de voir que ces jeunes qui, lorsqu'ils étaient à la campagne, pratiquaient dans les paroisses, arrivaient dans les faubourgs et ne pratiquaient plus du tout, mais il faut voir que ce clergé urbain était devenu très distant par ses références culturelles avec ces jeunes, et que bon nombre de prêtres se posaient la question « Comment faire revenir ces jeunes à l'église ?» Et il m'arrive encore d'entendre aujourd'hui des équipes d'animation pastorale où la question qui se pose, c'est comment on va les faire revenir. Alors, un petit orchestre, on leur donne 3-4 intentions. Jean Bosco de dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Le problème, c'est comment aller les rejoindre. » Passer d'une pastorale du faire venir à une pastorale du aller vers. Je crois effectivement que l'inspiration du pape François est en ce sens très salésienne. Donc lui, effectivement, allait à la rencontre de ces jeunes dans la rue. Il fut en quelque sorte un des premiers éducateurs de rue, de manière à, par le jeu, par l'animation, apprendre à se connaître et nouer cette relation de confiance. Et le deuxième volet, c'est sans affection, pas de confiance. C'est-à-dire que le jeune ne saura faire confiance qu'à celui dont il sent qu'il l'estime. Et après la grande rationalisation du siècle des Lumières, je dirais que Jean Bosco est ce pédagogue qui a réhabilité l'affectif au cœur de la relation éducative. Disant que, de toute façon, il y a de l'affectif. Mieux vaut être capable de le gérer, donc de le reconnaître et de le gérer correctement. Lorsque j'utilise le mot affectif, je parle tout autant de sentiments affectueux que de sentiments agressifs, on va dire. Plutôt que vouloir le nier. Je suis de ceux qui pensent que si notre école en France connaît de tels problèmes avec certains groupes de collégiens, c'est que bon nombre d'enseignants ont été formés à la négation de la dimension affective dans la relation pédagogique.
Très longtemps, on a entendu effectivement des professeurs qui disaient « mais on n'est pas éducateur, on est là pour enseigner ».
On est là pour enseigner. Mais comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était identique à la relation entre un prof homme et une adolescente fille. Comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était identique à la relation entre une prof femme et un adolescent garçon. C'est souvent quand j'interviens auprès des enseignants, je dis « il y a deux catégories de personnes qui n'ont pas de sexe, il y a les anges et les élèves ». J'entends parler de la relation prof-élève comme s'il s'agissait de la relation asexuée entre un adulte détenteur d'un savoir, un jeune en quête de l'acquérir, et puis la seule fonction serait l'enseignement. Non, la dimension affective traverse le champ de la relation humaine. Et donc, Don Bosco donc, a fondé la relation qu'il noue auprès des jeunes, et bien sûr, effectivement, c'est fondement affectif, en disant sans affection, la confiance ne pourra pas naître.
Enfin, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de l'affectif. Spontanément, je me dis, bah oui, un jeune, si on veut l'aider, si on veut l'accompagner, forcément, il faut qu'il y ait une relation affective, il faut de l'amour, hein, tout simplement, envers lui. Et pour autant, vous parlez aussi de la colère. Vous dites, attention, l'affectif, c'est pas que l'amour.
Hein. Bien sûr, hein, quand j'utilise le mot affectif, voilà, Jésus de temps en temps dans l'évangile se met en colère et il peut y avoir des situations qui génèrent de la colère. Mais la colère est aussi une manifestation de l'affectivité. Vous savez, si je suis en colère contre un jeune, c'est que quelque part ce jeune m'importe. Si vraiment j'en avais rien à cirer de ce qu'il était, je serais complètement indifférent. Donc je crois effectivement qu'être en colère, c'est aussi hein, manifester de l'affectivité à l'égard de ce jeune qu'on accompagne.
Et c'est pour ça aujourd'hui que vous, plutôt qu'amour, vous parlez d'alliance.
Voilà, oui, vous m'auriez interrogé dans les années 50, on qualifiait la pédagogie de Don Bosco de pédagogie de l'amour. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terme d'amour en français, hein, la situation un peu particulière à la France, est un terme très générique. On aime la crème au chocolat, on aime son métier, on aime la musique, on aime sa femme, on aime ses gosses, on aime son pays. Je veux dire, dans la langue anglo-saxonne, il y a quand même une nuance entre like et love, hein, qu'on ne trouve pas. Hein. Et donc ce mot amour est un peu fourre-tout. Et d'autant, j'aime dire qu'en grec, vous savez, il y a trois mots pour dire amour. Hein. Il y a eros, c'est l'amour au sens où l'autre est l'objet de ma pulsion amoureuse. Il y a philia, l'amour au sens où l'autre m'attire par sa beauté. Et puis agapé, au sens de la relation de réciprocité gratuite. Lorsque Jean Bosco parle d'amour dans son traité pédagogique, il se réfère à 1 Corinthiens 13, à l'agapé. Hein. Mais effectivement, je me souviens d'une émission de télévision avec un philosophe ou un jeune enseignant du diocèse de Nantes parlait avec enthousiasme que l'important c'était d'aimer ses élèves, la didactique c'était second si on aime ses élèves et le philosophe de lui répondre mais vous savez comment on appelle un adulte qui aime un enfant, on appelle ça un pédophile,
oui.
Monsieur. Ça l'a un peu refroidi. C'est vrai que s'il entendait le mot amour au sens de l'agapé chrétien et s'il était reçu par ce philosophe au sens de l'éros, c'est vrai que ça crée de la confusion. Alors voilà pourquoi j'aime bien ce terme d'alliance parce que c'est un terme qui conjugue l'amour et la loi. C'est une des grandes bonnes nouvelles de l'Évangile, c'est que amour et loi se conjuguent. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est une parole forte de Jésus. Je ne suis pas venu abolir. Ce n'est pas un amour qui abolit la loi. Pourquoi je suis un peu critique, vous savez, parfois par des interprétations qu'on fait du slogan de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Je ne connais pas de parole plus dangereuse. J'ai envie de dire, on a pu, avec ce slogan, justifier l'Inquisition. On aimait tellement les hérétiques, un amour brûlant d'ailleurs, on était tellement convaincus dans l'air du temps, que s'ils se convertissaient pas, ils étaient condamnés à l'enfer, et on se représentait l'enfer sous l'angle de la gêne éternelle, alors on faisait tout pour les convertir. On essayait d'alléguer, ça marchait pas. Alors on les torturait, ça marchait toujours pas. Alors dans un grand élan d'amour, on les brûlait, en se disant qu'en expérimentant le feu dans quelques minutes, peut-être ils se convertiraient en expirant. Vous voyez où ça peut mener, hein, l'amour sans loi. La loi, c'est le respect de l'altérité de l'autre. Pourquoi j'aime dire, et je reprends les réflexions de Xavier Thévenot, qu'il n'y a pas de véritable amour sans loi. Je connais des enfants qui souffrent d'être mal aimés, j'en connais d'autres qui souffrent d'être trop aimés dans une relation tellement fusionnelle avec la mère que cette relation les empêche véritablement de grandir. Et il n'y a pas de loi sans amour. Comme je le disais, la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Et l'art d'exercer une fonction d'autorité, c'est la capacité de faire passer comme message à l'enfant « je te dis non parce que je t'aime ». Je n'aurai rien à cirer de toi, je n'aurai rien à cirer de ton avenir, je te laisserai faire n'importe quoi. Si je pose cette limite, si je pose cet interdit, si je te dis non, c'est pour t'éviter une impasse, c'est parce que tu as du prix à mes yeux, parce que ton avenir m'importe. Donc ce terme d'alliance, à la fois ça évoque un peu ben, cette relation d'amitié entre les alliés, mais ça évoque aussi ce pacte qui régit l'alliance. Or, c'est un terme consonance très biblique, hein. On parle d'ancienne alliance, de nouvelle alliance. Et donc, j'aime parler d'alliance éducative. Comment l'éducateur va faire alliance avec le jeune qui l'accompagne pour effectivement eh bien, le faire sortir. Éduquer, ça signifie faire sortir, exdoutcherer, conduire hors d'eux, pour le conduire hors de l'état d'enfance, pour accéder au statut de sujet adulte.
Donc, pédagogie de Bosco, croire, espérer, aimer. Aimer, ça y est, c'est vu.
Voilà. Oui, en ce sens, c'est vraiment une pédagogie évangélique. Saint Jean-Paul II disait de Jean Bosco que c'était sans doute dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, le saint qui avait le mieux saisi la portée du verset « Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille ». Et Jésus dit bien « Celui qui accueille un enfant ». Il ne dit pas « Un enfant de mes disciples ». Cet enfant aujourd'hui peut être musulman, peut être bouddhiste, peut être athée. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Autrement dit, c'est une invitation pour l'éducateur chrétien de nouer une relation à l'enfant dans le même registre que sa relation à Christ. C'est-à-dire une relation fondée sur le croire, espérer, aimer. J'aime dire que éduquer en chrétien, c'est vivre la relation éducative dans un « je crois en toi », à la manière dont Christ croit en toi, je te fais confiance. Et donc la pédagogie de Don Bosco est une pédagogie de la confiance. J'espère avec toi, à la manière dont Christ espère avec toi. Et donc c'est une pédagogie de l'espérance, comment on va œuvrer ensemble pour la construction d'un monde plus juste, plus fraternel. Et puis je t'aime à la manière dont Christ t'aime, c'est-à-dire en respectant eh bien, ton altérité d'homme et en t'acceptant comme tu es et non pas comme je voudrais que tu sois. Et aimer effectivement donc, à cette manière du Christ en se référant à ce que je qualifiais d'agapé. On a là effectivement les trois piliers hein, de la démarche éducative de Don Bosco qu'on peut résumer, hein, cette pédagogie de la confiance, de l'espérance et de l'alliance.
Mais alors, je vais vous titiller, vous dites qui accueille un enfant en mon nom, ça veut dire qu'il faut aussi nommer. L'éducateur chrétien le fait au nom du Christ. Il va parfois s'accrocher auprès d'un jeune en qui il a peut-être du mal et se dire mais si je décide de croire au nom de ma foi, mais qu'il accueille en mon nom. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un travail d'annonce à faire. C'est une question. Hein.
Oui, tout à fait. J'ai envie de dire, l'époux chrétien, qui effectivement vit la rencontre du Christ au cœur de cette relation conjugale. C'est le sens du sacrement de mariage. On ne lui demande pas de faire des grands discours à l'usine sur « j'aime ma femme », vous savez, « j'aime ma femme », « ah, ma femme, elle est extraordinaire, j'aime... » Non, on lui demande effectivement, il va travailler, enfin, je veux dire, et il sait bien que c'est aussi par amour pour sa femme, pour entretenir sa famille qu'il travaille. Mais l'important, c'est pas de dire « j'aime ma femme extraordinaire, j'aime ma... » C'est pas ça l'important. L'important, c'est de faire sa tâche d'homme, de manière effectivement à montrer par des actes qu'il aime sa femme, qu'il aime sa famille.
C'est donné à voir.
Oui, c'est ça. Hein. Je veux dire que peut-être poser la question. Après, les gens l'interrogeront peut-être en disant « mais tiens, c'est pourquoi là tu... » et puis il pourra répondre. Vous savez, j'aime bien qu'il s'agit d'avoir une posture où il s'agit effectivement que ce soit la vie qui pose question, puis ensuite de répondre aux questions. Je suis étonné, moi, quand je lis l'Évangile, que la quasi-totalité des dialogues évangélisateurs, Jésus répond à une question posée. Et qu'il n'y a que trois situations où il prend l'initiative de la parole. Trois seulement, dans tout l'Évangile. Et c'est automatiquement pour rendre la parole à l'autre. C'est de quoi discutez-vous en chemin ? Soit ses disciples, soit Emmaüs, c'est « donne-moi à boire » ou c'est « pour vous qui suis-je ». Ce sont les trois seules occasions où il prend l'initiative. Dans tous les autres cas, sa manière d'annoncer la bonne nouvelle, c'est en répondant aux questions. Aux questions du jeune scribe, répond aux questions de la femme pécheresse. Donc là, pour moi, la pédagogie de l'annonce évangélique, c'est une pédagogie du dialogue et où c'est l'autre qui a l'initiative du dialogue. Voilà, mais c'est bien au nom du Christ, moi, je crois être fidèle à l'évangile, d'essayer de vivre cette annonce, non pas... Et j'aime dire quand Jésus va évangéliser la Samarie, il ne s'installe pas sur un podium avec une grande croix, « Je suis le Fils de Dieu, venez à moi !» Non, il commence à rencontrer en profondeur une femme, la rejoignant dans ses véritables quêtes. Et puis après, c'est elle qui va aller interpeller les habitants et qui viennent à lui. C'est ça, sa dynamique et sa stratégie de l'annonce. C'est pas des grands discours. Fois, je vois des gens autour de moi. Ah oui, mais alors si tu parles pas du CRIF, enfin, lui, il a très peu parlé, il répondait aux questions.
Et alors bon, vous faites cette intervention, vous êtes maintenant prêtre retraité, ce qui n'empêche que vous êtes aussi bien affairé, bien occupé. Vous avez été à l'initiative d'une œuvre, presque, hein, c'est une association, mais c'est presque une œuvre, le Val d'Oco, qui était justement cette intuition à l'image de Don Bosco, oui. Justement, d'être plus proche des jeunes, plutôt en difficulté pour les aider à se relever.
Ouais. Alors, je vous reprendrai juste sur un mot. Je ne suis pas prêtre retraité, je suis directeur retraité.
Pardon.
Au niveau professionnel, mais je ne me considère
Excusez-moi.
Pas comme un prêtre retraité, puisque je suis devenu le vicaire du provincial des Salésiens. Alors, oui, le Val d'Oco donc, est né en 95, donc sur la dalle d'Argenteuil, qui est un quartier sensible de la banlieue parisienne, qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. Et le Val d'Oco est né de la rencontre entre un collectif d'habitants qui étaient inquiets pour le devenir de leurs enfants dans le contexte d'une cité qui était devenue très violente, et des Salésiens de Don Bosco qui étaient désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue. Parce qu'ils s'étaient aperçus en France qu'ils avaient beaucoup investi le champ de l'école, mais que Don Bosco ne pouvait pas se limiter à l'école, que Don Bosco c'était aussi l'éducateur de rue, hein, qui allait à la rencontre des jeunes des faubourgs. Donc c'est ainsi qu'est né le Val d'Oco, qui est né sur Argenteuil. Aujourd'hui, donc, il existe aussi en banlieue lyonnaise, Gouvou-en-Velin, à Nice, à Lille, à Marseille, et puis un projet aussi sur Saint-Dizier. Et l'idée phare du Val d'Oco, qui est un petit peu originale, c'est cette volonté de rencontrer le jeune dans ses trois champs de vie que sont la famille, l'école et la cité. Parce qu'une difficulté majeure de ces gamins qui habitent dans les quartiers, c'est que tous les jours, ils passent par trois lieux. Ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école, ils passent du temps dans la cité avec les copains de quartier, et que chacun de ces lieux est marqué par une culture différente. Et la culture familiale qui reste empreinte des traditions d'origine, il y a la culture scolaire empreinte des traditions républicaines, et puis il y a la culture du quartier qui est essentiellement devenue une culture de l'entre-jeune. Les adultes ayant un peu déserté l'espace public, et on sait combien le numérique fait que cette culture de l'entre-jeune devient de plus en plus référente. Et on sait que le comportement de l'enfant peut être un peu différent lorsqu'il se situe au sein de la fratrie dans la famille, lorsqu'il se situe au sein d'un groupe encadré par l'adulte et avec aussi toute la relation parfois difficile avec l'encadrant, ou lorsqu'il se situe au sein de la bande de copains où il n'y a plus aucune référence adulte. Or, le travail social classique en France est très cloisonné. Éducateur EMO qui intervient dans la famille, travailleurs sociaux qui interviennent à l'école, éducateur de rue qui intervient dans la rue. Or, il nous semblait que si nous voulions appréhender véritablement l'enfant, apprendre à le connaître, pour le rencontrer, il nous fallait être présent dans ces trois champs. Alors, l'originalité du Val d'Oco, c'est d'avoir développé son action autour de ces trois axes. Il y a tout l'axe de l'animation de rue, où nos éducateurs vont sur les places, font jouer les enfants, vont à la rencontre du tout venant, discutent avec les plus grands, donc tout le secteur de l'animation et de la présence au milieu des copains. Il y a tout ce qui tourne autour de l'accompagnement éducatif et scolaire, la prévention du décrochage scolaire, la prise en charge des jeunes qui ont été exclus de l'école. Et puis il y a tout ce qui tourne autour du soutien à la parentalité, groupe de parole de parents, médiation familiale. Le maître mot de l'action du Val d'Oco réside dans ce que l'on pourrait qualifier de médiation famille-école-cité. Tenter de créer du lien entre tous ces adultes qui cheminent auprès de l'enfant. Parce que une grande difficulté aujourd'hui, c'est que bon nombre de ces adultes soit s'ignorent, ou pire même, se discréditent. C'est le discours tenu par certains enseignants sur « si j'arrive pas à faire cours, ben c'est la faute aux parents, et qu'à éduquer leurs enfants, c'est ce que je fasse, et puis c'est la faute à l'environnement ». Vous écoutez les parents, ils vous disent « mais alors qu'est-ce que c'est que ces enseignants ?» Ils se disent professionnels de l'éducation, ils sont même pas capables d'assurer la discipline dans la classe. Moi j'envoie mon gamin à l'école pour qu'il apprenne, il revient, il sait rien. Ça ne sait pas faire son métier et ça vient vous donner des conseils.
Et finalement, pour l'enfant, c'est hyper déstabilisant.
Complètement, complètement. Moi, j'aime dire que le premier droit de l'enfant, à l'orée du 21e siècle, c'est le droit à la cohérence des adultes qui l'accompagnent sur une carrière de croissance. Et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de violence, on y reviendra peut-être, et j'ai toujours pu établir un lien entre le niveau de violence d'un enfant, d'un adolescent, et le niveau d'incohérence des adultes qui la rencontrent. Et combien le Val-de-Co essaye d'être un peu un artisan de cette cohérence en dialogue constant, donc avec les parents, avec les enseignants et avec tous les partenaires que l'on nomme du tiers éducatif.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous êtes avec les jeunes, mais au-delà des jeunes, il y a toute cette mise en lien entre ces professionnels, finalement.
Voilà, tout à fait. Vous savez, moi, j'aime bien ce proverbe africain, il faut un village pour éduquer un enfant. Il faut un village, il faut éduquer un enfant. Encore faut-il que chacun ait l'impression d'appartenir au même village. C'est ce qui manque un peu. Je veux dire, voilà, cette communauté éducative, l'école catholique a beaucoup développé ce thème, et je m'en réjouis. Cette communauté éducative, avec l'enfant au centre, et puis les parents, les enseignants, les autres acteurs qui cheminent auprès de cet enfant pour peu à peu l'aider à devenir sujet à part entière de la société des hommes et des femmes de ce temps.
Le grand défi, c'est que ça ne reste pas qu'une profession de foi. Et que ça s'incarne.
Tout à fait, tout à fait. Je pense pouvoir dire qu'au Val-de-Co, ça s'incarne. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces équipes éducatives qui travaillent au Val-de-Co et ces équipes un peu pluridisciplinaires. C'est-à-dire d'avoir des éducateurs spécialisés, d'avoir aussi des animateurs, on fait aussi de la médiation. Enfin, se dire, on a en France, et c'est un vrai problème, des cultures professionnelles qui ne se croisent pas trop. Il y a une culture professionnelle de l'enseignement, il y a une culture professionnelle du travail social, une culture professionnelle de l'animation. Et puis chacun travaille selon sa déontologie professionnelle sans se rendre compte que l'enfant est mis au carrefour. L'enseignant, il ne voit pas comment l'assistante sociale travaille. L'assistante sociale ne voit pas comment l'enseignant travaille. Mais le gamin, il voit bien comment les deux travaillent. Et c'est lui qui peut être un révélateur d'incohérence.
Je ne vais pas être provocatrice, hein, l'objet n'est pas là. Mais tout ça, ça nous mène en politique.
Ah mais bien sûr, bien sûr. Pourquoi au niveau de mon itinéraire personnel, hein, j'ai travaillé 40 ans comme éducateur spécialisé, directeur de structure, hein, soit en prévention, soit à la direction de foyer. Et j'ai toujours un peu organisé mon temps avec trois cartons sur le terrain et puis un carton de conseil. J'ai travaillé 10 ans au cabinet d'un député maire, Pierre Cardot. J'ai travaillé 10 ans au cabinet d'un président de conseil général dans les Yvelines, plus récemment au cabinet du ministre du Logement et de la Ville, parce que, effectivement, j'aime dire que la politique est une dimension de la charité. C'est ce que j'aime chez Don Bosco, c'est qu'il est intervenu sur les trois dimensions de la charité. Je m'explique. Vous avez un SDF qui frappe à votre porte. Première réaction, vous lui donnez un sandwich. C'est ce que j'appelle la dimension de proximité fraternelle. J'exerce la charité dans cette proximité fraternelle. Après, quand vous réfléchissez un peu, vous vous dites, enfin, lui, il a osé frapper à ma porte, mais ils sont combien dans la ville qui n'oseraient même pas mendier ? Faudrait-il que le seul qui puisse manger, c'est celui qui a l'outrecuidance de venir me déranger et les autres ? Alors vous allez vous engager au Resto du Cœur, permettre à la personne qui a faim de pouvoir manger sans être en position de quémander. Ça, c'est ce que j'appelle la dimension institutionnelle de la charité. C'est-à-dire que je vais travailler au sein d'une institution qui répond à un besoin. Puis, après la saison effectuée, vous vous dites, mais enfin, quand même, notre pays est la sixième puissance économique du monde et il y a des gens qui ne sont pas capables de manger à leur faim dans la sixième puissance économique du monde. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien sur la répartition des richesses. Et là, on arrive à la dimension du politique. Toujours la charité, la dimension politique de la charité et essayer de travailler effectivement à une meilleure répartition des richesses de manière à ce que les besoins vitaux de chacun. Alors, je veux dire qu'au niveau éducatif, moi, c'est ce qui m'a guidé. J'aime bien cette proximité fraternelle. J'ai monté une association autour d'un bateau et même aujourd'hui, je suis coordinateur du réseau Don Bosco Action Sociale. Je passe régulièrement des séjours où j'emmène des adolescents partager ma passion de la voile. Mais c'est vrai qu'au retour, on dit, bien, j'en ai emmené 7. Ils sont 500 sur les quartiers à ne pas partir en vacances. Alors, il y a une deuxième dimension qui est le Val-de-Co. Alors, c'est beaucoup de papiers, des demandes de subventions. Mais ça va permettre à mes éducateurs de pouvoir emmener plusieurs centaines d'enfants en vacances. Mais après, on se dit, moi, j'ai réussi à les faire sortir des quartiers. Mais si toute la politique consiste à les maintenir dans le quartier ? Vous savez, cette politique de zonage, où on finance des actions dans les quartiers pour les gens des quartiers, à quoi ça sert ? Et donc là, c'est la troisième dimension qui m'a incité à m'engager en politique, qui est de dire, il faut qu'on change un peu de paradigme en termes de politique de la ville, que ce ne soit pas mener des actions dans les quartiers pour les gens des quartiers, mais que ce soit permettre à ces habitants du quartier de s'ouvrir aux autres réalités et de permettre aux habitants des autres quartiers de bien connaître cette réalité. Et Jean Bosco, lui aussi, c'est lui qui m'a initié en cette démarche. Il était à la fois très proche de tous ces jeunes qu'il accueillait, on parle du petit mot à l'oreille, et puis il a dirigé le Val-de-Co qu'il a fondé, si j'ai repris le nom.
Ah, d'accord.
Ouais, c'était le nom du quartier, c'est-à-dire qu'il a fondé l'oratoire, mais maintenant l'œuvre s'appelle le Val-de-Co, parce que le Val-de-Co, c'était le quartier le plus mal famé de Turin. Littéralement, ça veut dire Val des Oxy, parce que c'était le lieu des exécutions publiques. Et donc, il a fondé son œuvre dans le quartier le plus mal parlé. Alors, il l'appelait Oratoire Saint-François de Sales, mais aujourd'hui, tout le monde l'appelle Valdecaux, on va dire. Et puis, eh bien, il était en lien constant avec Ratazzi, le ministre de l'Intérieur, qui était pourtant un anticlérical notoire, mais qui reconnaissait le bien fondé des intuitions de Don Bosco en termes de prévention de la délinquance. Et on raconte même que c'est au sortir d'un entretien avec ce ministre anticlérical qu'il a eu l'idée de fonder une congrégation, alors que l'évêque s'est opposé toutes ses forces. Et l'évêque de Turin a essayé de s'opposer toutes ses forces à la naissance de cette congrégation nouvelle, parce que lui, il ne voyait pas le prêtre comme quelqu'un qui sillonne la rue au milieu des jeunes. Il voyait le prêtre modèle Concile de Trente, enfermé dans son église.
À ça ne rentrait pas dans ses représentations.
Ça rentrait pas dans ses représentations. Eh bien, c'est au sortir de ce bureau que le ministre lui avait posé simplement la question. Il dit, Don Bosco, c'est bien ce que vous faites, mais vous allez mourir un jour. Et qu'est-ce que va devenir votre œuvre une fois que vous aurez disparu? Et c'est là où il s'est dit, voilà, je vais fonder une congrégation. Et ce qui est merveilleux dans l'histoire de la congrégation, je crois que c'est un exemple unique hein, dans l'histoire de la société et de l'Église, c'est qu'il a réuni dans sa chambre, un soir de décembre 1859, 15 jeunes, âgés de 15 à 24 ans, tout jeunes, en disant, je vous ai aidé, maintenant j'ai besoin de vous pour que vous poursuiviez mon œuvre. 15 jeunes en 1859, 15 000 en 1959, aux quatre coins du monde. Je crois qu'aucun ordre religieux n'a eu une telle expansion. Et à différence des autres ordres, Dominique a fondé les Dominicains avec ses copains étudiants, François a fondé les Franciscains avec ses copains étudiants, Ignace a fondé les Jésuites avec
la
ses copains
militaires étudiants.
Or, Jean Bosco lui a fondé la congrégation en s'appuyant sur les jeunes de 15 à 24 ans. C'était vraiment l'ossature de la congrégation.
Ah, c'est beau ça. Merci beaucoup Jean-Marie Petitclerc.
Merci.
On va se retrouver la semaine prochaine, si vous le voulez bien, et vous allez continuer à nous parler des réalités des éducateurs chrétiens. Merci beaucoup Père, à la semaine prochaine.